RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Si vous voulez prendre la parole avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, jusqu'à midi, le chemin le plus court, c'est le 32-16. Et vous pourrez ainsi discuter, débattre, interpeller Abel Boyer, l'éducateur, Laura Barton-Martinez, la sophrologue, ou Bérénice Levé, la philosophe, qui est aujourd'hui avec nous dans l'émission. C'est la deuxième heure des GG. De quoi va-t-on parler? D'interdiction de la vente de tabac aux personnes nées après 2009. C'est ce que souhaite aujourd'hui l'assurance maladie pour avoir une génération sans tabac. Est-ce qu'on doit le faire? Est-ce qu'on est à l'abri d'une nouvelle affaire Paty? On va regarder ce qui s'est passé du côté d'un lycée francilien avec une mère de famille qui a dit à une enseignante « Je vais te faire une Samuel Paty ». Sa fille, cette dame, est dans un lycée professionnel spécialisé dans l'hôtellerie.
Cette mère de famille a été interpellée?
Justement, elle a été convoquée, il y a eu une confrontation. Après, il n'y a pas eu d'interpellation.
Bah voilà.
Mais attendez, on en parlera tout à l'heure à 10h20.
Ça s'appelle une menace de mort.
D'abord, on va s'intéresser au programme de Gabriel Attal pour la présidentielle de 2027. Et il veut une réduction drastique des dépenses sociales. C'est dans les colonnes du Parisien que l'ancien Premier ministre et ministre de l'Éducation nationale d'Emmanuel Macron donne son plan pour 2027 et il faut dégraisser.
Oui, il dit très clairement que les dépenses sociales sont hors de contrôle. Aujourd'hui, les deux tiers de nos dépenses sont sociales, donc les deux tiers des économies à réaliser doivent être faites dans le social pour boucher le trou de la sécu avant 2032, pour réduire les déficits, la dette. Et donc Gabriel Attal, candidat à l'élection présidentielle, préconise de réformer les retraites, de mettre fin à la spirale infernale des arrêts maladie et de faire une réforme de l'assurance chômage. D'ailleurs, il a commencé à le faire quand il était Premier ministre. Je donnerai quelques chiffres. Les dépenses sociales dans ce pays, c'est entre 900 et 1000 milliards d'euros par an. C'est 32% de notre PIB. C'est essentiellement les retraites. Ça coûte très cher. C'est près de 45% des dépenses sociales. Mais aussi ensuite, bien sûr, la santé, assurance maladie, les remboursements de soins, les hôpitaux, etc. Environ 300 milliards d'euros. Très bien, une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'on peut être élu en promettant de réduire les dépenses sociales? Et puis quand on rentre dans le dur, qu'est-ce qu'on supprime dans les dépenses sociales concrètement?
Est-ce que ça doit être la priorité? 32-16 pour le dire aux grandes gueules, Bérénice.
Bon, alors, je vais vous avouer que je n'ai pas de grandes compétences en ce domaine. Bon, de toute façon, Gabriel Attal me semble tout à fait pathétique, donc je ne le prends pas au sérieux.
Et pourquoi?
Mais parce que on a le sentiment qu'il, c'est chaque jour, il va nous annoncer une nouvelle mesure, mais je ne vois rien de solide, de socle vraiment qui soutient ça, un projet politique.
Donc, des effets d'annonce à chaque fois.
Mais oui, il essaie justement de se faire remarquer, bon, de se distinguer, mais je pense que sur ce point, Édouard Philippe le rejoindra.
Ou il rejoindra Édouard Philippe.
Ça s'est fait voilà. Aussi. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que
la même chose.
Voilà, oui, ils disent d'accord. Exactement la même chose. Après, évidemment, bon, il me semble aberrant de vouloir de toute façon réduire le budget de la sécurité sociale. On va avoir un besoin croissant et puis on peut pas d'un côté vouloir remplacer l'euthanasie, rembourser l'euthanasie, et puis d'un autre côté réduire les dépenses sociales. Donc, il faudrait simplement un peu de cohérence dans ses propos, puisque je pense qu'il soutient la loi en faveur de l'euthanasie. Bon, mais je vous dis, pathétique.
D'accord, on restera sur cet adjectif qui en même temps résume assez bien ce que tu penses de Gabriel Attal.
Ah oui.
Donc, pathétique. Laura et Abel.
Écoutez, évidemment qu'il doit y avoir des réductions sociales. Maintenant, j'aimerais bien savoir, parce que ça c'est facile à dire, moi j'aimerais bien avoir 1 million d'euros, mais il ne nous explique pas ce qu'il veut faire, ce qu'il veut enlever, etc. Encore une fois, Là, on se posait la question de Madame Meloni qui a fait baisser le chômage. Bon, bah ça peut, par exemple, rendre de l'argent dans les caisses publiques. Eh bien, c'est ce que je dis et ce que je répète et ce que je martèle. Elle a libéré l'emploi, elle a levé les cotisations sociales, elle a fait des exonérations de charges sociales pour les gens qui vont embaucher des jeunes de moins de 35 ans et des femmes, et des exonérations totales pour les gens qui embauchent dans le sud de l'Italie, dans la partie la plus pauvre. Donc, libérons le travail. Arrêtons avec ce CDI, ce CDD. Les gens veulent travailler 3 heures dans une boîte, 4 heures dans une autre, 5 heures dans une autre. Mais les gens font ce qu'ils veulent. Laissons le travail se faire. En fait, dans ce pays et dans tous les dirigeants qui sont en train de se proposer comme le chevalier servant de la France, ne font exactement que la même chose. Ils prennent les mêmes ingrédients, ils changent un peu la recette et ils essayent de nous la vendre.
Il n'y a pas de révolution.
Il n'y a pas de révolution.
Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'idées.
La révolution, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, on fait un impôt fixe pour toutes les entreprises, pour tous les Français, équitable. Il n'y a plus personne qui ne paye pas d'impôts dans ce pays. Il faut arrêter avec l'idée qu'un Français sur deux paye des impôts. On met tout le monde à la même enseigne. Tout le monde paye. On se base sur 12%, comme en Irlande, et les entreprises françaises vont arrêter d'avoir des sociétés.
Pardon, si tu réduis les impôts, comment on finance justement notre système social?
Par la croissance.
Oui, d'accord.
Par la consommation.
Par la croissance et la consommation. On remarque que de taxer et de tout donner à l'État, ça ne fonctionne pas depuis 60 ans. On passe enfin par une retraite par capitalisation.
Les dépenses sociales, c'est quand même énormément d'argent qu'il faut dégager à chaque fois pour financer les
retraites. Tu enlèves les mille feuilles administratives. Tu enlèves toutes. Je crois que
j'aurais plus rien à dire.
Bon, d'accord.
Mais est-ce que vous faites est-ce qu'on peut être élu en promettant ça?
Mais pas du tout.
Mais oui, mais Gabriel Attal, c'est pour moi le candidat PIUI+, un peu, tu vois, c'est le petit gamin qui est tout content de traîner avec des adultes et qui veut montrer qu'il
a
des abdos. Ben non, mais c'est la réalité, c'est-à-dire en plus
il sait,
un mois. C'est pour ça que Macron l'a dégagé rapidement par la dissolution, c'est-à-dire qu'il ne pèse rien. Et on sait qu'il se ralliera à Édouard Philippe. Il y a forcément des accords qui sont déjà coordonnés, entérinés entre eux. C'est pour ça que, comme tu l'as dit à plusieurs reprises, pour l'élection présidentielle, moi je serais plus pour une élection à un tour. Comme ça, on arrêtera de se moquer des Français avec des candidats qui échouent et qui se rallient avec des personnes qu'ils ont critiquées auparavant. Donc déjà, il faudrait un peu de dignité dans la politique. Il a parlé aussi des fonctionnaires, 100 000 fonctionnaires, lesquels? Est-ce qu'il s'attaque aux 70 000 hauts fonctionnaires qui gagnent plus de 15 000 euros par mois? Est-ce qu'il s'attaque aux policiers? Est-ce qu'il s'attaque au personnel hospitalier? Tout est confus, tout est flou, parce que aujourd'hui, se présenter à l'élection présidentielle, c'est le concours de qui va incarner l'autorité. Mais il n'y a pas de fond. C'est que de la façade en réalité, donc je suis désolé qu'il retourne jouer à la PlayStation et qu'il laisse les grands se présenter à l'élection.
Là, c'est un peu méprisant, parce qu'il a quand même été Premier ministre, ministre de l'Éducation nationale. Il a eu le courage, prendre la mesure sur l'abaya. Là, tu le renvoies à sa jeunesse.
Lui, comme Jordan Bardella, c'est méprisant, et c'est pas un argument de dire qu'il est jeune.
Lui, comme Jordan Bardella, ce sont des TikTokers qui retournent s'amuser. Et on a besoin d'un niveau, on a besoin de
carrière. On a été dirigé par des vieux, c'est vrai que c'était beaucoup mieux. Ah, c'est vrai, c'était formidable. Alors, c'est vrai que Jacques Chirac, il nous a pas. Moi, j'adore ce procès, des jeunes.
Mais tu as le droit d'être naïf.
Pendant des années, on a été dirigé par des personnes âgées et on a vu ce que ça a donné. Moi, l'histoire de l'âge, c'est pas un problème.
Je pense que
Gabriel Attal, après, on est d'accord ou pas avec sa politique, c'est quelqu'un qui est quand même assez dynamique, qui a de l'énergie, qui a été Premier ministre.
Mais malgré sa jeunesse, il n'y a aucune révolution d'idées.
Pas en même temps.
Il est vieux dans Attal, ça ne suffit pas d'avoir de l'énergie. En plus, je vous dis, c'est pourquoi je dis qu'il a quelque chose de pathétique, parce qu'on sent que c'est cette image qu'il veut donner, mais il n'y a rien derrière. Il n'est pas plus épais qu'une carte à jouer, quoi. Voilà. Alors moi, c'est pas son âge. Je suis tout à fait d'accord là. Là n'est pas le problème, mais il n'a aucune structure, on ne sait rien en réalité. Alors évidemment, on pourra toujours invoquer la loi sur la baïa. Mais non, mais pour être sincère, il faudrait qu'il y ait un fond. Or, il n'y a aucun fond. C'est le Macron d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il peut aller de palinodie en palinodie, en même temps à en même temps, mais il n'y a rien derrière cela. Vous ne...
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vision de la France, c'est ce que tu veux dire.
Non, parce que même quand... Alors, il paraît-il qu'il se dit, finalement, personne n'occupe ce créneau, alors moi, je vais occuper celui de l'intelligence artificielle. Sauf que l'intelligence artificielle, il faut la penser, précisément. Il ne s'agit pas de s'en faire simplement le promoteur.
Et on a déjà perdu le combat, en réalité.
C'est surtout qu'il est pro-Europe, et l'Europe, les seules mesures qu'elles ont votées en faveur de l'intelligence artificielle, c'est des restrictions. Il n'y a rien qui a libéré l'intelligence artificielle en Europe.
Mais de toute façon, c'est un sujet très important et qui mérite justement...
C'est bien qu'il en parle, parce que comme moi, je pense que c'est un des sujets
les plus importants, je viens de diriger une table ronde sur l'intelligence artificielle dans le cadre des rencontres Tocqueville organisées par le Figaro. Donc, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup.
C'est déjà bien qu'il en parle, parce que les autres n'en parlent pas. Édouard Philippe, il est catastrophique sur ça.
David Lisnard en parle.
David Lisnard en parle un peu.
Oui.
Enfin, Marine Le Pen, j'ai jamais entendu parler de l'intelligence artificielle.
Pourquoi tu n'as pas voté pour elle?
C'est une des candidates, ou Bardella, c'est quand même des candidats qui sont favoris.
Mais moi, je vois que sur les sondages, c'est les favoris. Gabriel Attal se flatte d'avoir organisé son fameux meeting avec l'intelligence artificielle.
Oui.
Il ne s'interroge pas non plus sur tous les enjeux qu'il faut absolument prendre en considération. Nous avons, pour moi, la chance, vous savez la fameuse phrase de Sartre, c'est « il y a des retards qui nous donnent de l'avance ». Nous avons du retard. L'avance, ça pourrait être précisément de penser quand même quelques garde-fous, mais aussi de profiter en revanche de ce que peut apporter l'intelligence artificielle.
Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, là où je suis d'accord avec toi, c'est quand tu incarnes une certaine jeunesse et dite modernité, tu dois donner une vision de la France à 20, à 10, 15, sur
jeunes,
ou 20 ans. Voilà. Où tu veux emmener le pays?
Mais
tu peux pas uniquement être sur la réduction des dépenses sociales, aujourd'hui on a une dette qui fait peur à tout le monde.
De toute façon,
tu peux pas être qu'un comptable, comptable. Et puis parce que si tu veux, quand tu arrives en disant 100 000 fonctionnaires, dépenses sociales, t'as les gens qui vont dire, donc, dans un pays où il y a 5 millions de fonctionnaires, c'est ça? 5, 6 millions?
5 millions.
Donc, tu vas dire, ça veut dire que moi je vais être votre variable d'ajustement.
C'est justement ça que la jeunesse de Gabriel Attal me pose problème. C'est-à-dire que mes gars, en fait, t'es jeune, tu vois tout ce qui est en train de se passer, et tu n'utilises pas ta jeunesse pour avoir des idées nouvelles.
Vous trouvez qu'il est jeune avec des recettes de vieux?
C'est exactement les mêmes ingrédients. C'est-à-dire, on va toucher un petit peu là pour gagner là et pour donner un petit peu de sous là, mais on n'augmente pas la croissance de ce pays. Il y a rien pour libérer les entreprises.
Il y a rien
pour libérer le travail. Il y a aucune réelle réforme sur la retraite, ce qui est quand même le truc qui nous pèse le plus cher. Il n'y a rien, il n'y a pas d'idée novatrice.
Alors la campagne, attention que la campagne...
C'est lui qui fait une page dans Le Parisien.
Je suis d'accord.
Sur ce thème-là.
Tu as raison. Ce que je veux dire, c'est que la campagne n'en est qu'à ses débuts. Là, il va y avoir le meeting d'Edouard Philippe. Je pense que ça va pousser aussi Gabriel Attal derrière à se positionner.
On peut prendre un exemple concret.
À finir son programme.
Laissons Attal de côté. Mais par exemple, il dit, il faut mettre fin à la spirale infernale des arrêts maladie. C'est vrai que les arrêts maladie en France explosent.
Mais comment concrètement? C'est-à-dire que
Est-ce que sur le constat, vous avez Pompidou, a raison? Est-ce qu'il faut à un moment donné dire stop, c'est open bar les arrêts maladie? On sait très bien que c'est très facile en France d'avoir un arrêt maladie.
Il suffit
de dire à ton médecin qu'on a mal au dos ou qu'on est.
Surtout ces fonctionnaires qui ne servent à rien, tu crées des entreprises privées qui vont aller faire des contrôles, parce que normalement, quand tu es en arrêt maladie, de telle heure à telle heure, tu dois être à ton domicile, tu ne dois pas bouger, tu crées des entreprises qui vont aller faire des contrôles des gens qui sont en arrêt maladie et des gens qui vont faire des contrôles sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a plein de petits malins qui, pendant qu'ils sont en arrêt maladie, se prennent en photo au Caraïbes, au machin et tout, ou tout simplement en train de faire la fête chez eux. Donc tu peux faire ça, par exemple.
On peut pas aussi responsabiliser les médecins un peu?
Les médecins, tu peux, mais après, attention, un médecin, s'il te met pas en arrêt maladie,
on a commencé à le faire déjà. Mais souviens-toi que les médecins étaient vent debout lorsqu'on avait dit qu'on voulait regarder de près les médecins qui étaient les champions de la prescription.
Et puis la téléconsultation aussi, on va regarder Bérénice.
Un mot sur là non plus, j'ai pas un avis très 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 original, mais La question quand même des arrêts maladie pose celle de savoir les raisons aussi pour lesquelles les gens se font quand même arrêter. Il y a quand même un problème au niveau précisément du travail. Moi, je crois que
santé mentale
ce dont
au
nous
travail
aurions vraiment besoin, c'est une vraie réflexion sur le travail. Et alors, c'est pourquoi là, je te retrouve, c'est que il faut libérer le travail et faire aussi que les gens puissent avoir des emplois dans lesquels ils
s'épanouissent.
Bah oui.
Oui, ou en tout cas, ils se sentent justifiés, légitimes, parce que
payés.
Et oui, et bien payés, et surtout qu'ils se sentent utiles à quelque chose, parce que
je reviens sur Mélanie pour te donner
raison. Alors
attendez,
je voudrais pardon, je vous coupe parce qu'on a Xavier qui est chef d'entreprise en Haute-Garonne qui veut intervenir dans la discussion. Bonjour Xavier.
Salut Alain, salut GGG.
Alors Xavier, réduire les dépenses sociales, est-ce que c'est une priorité? Est-ce qu'il a raison Gabriel Attal d'être sur ce créneau-là? Dites-nous.
Alors sans être un nataliste à la première heure, oui, il a raison, mais il y a le discours, et le fond et la forme. Ce qu'il faut, c'est pas juste balancer des grandes phrases comme font les politiques les trois quarts du temps. Ce qu'il faut, c'est faire des annonces, mais avec des mesures chiffrées, pour vous montrer, là, on va baisser cette dépense sociale, mais de l'autre côté, on va vous redonner du pouvoir d'achat pour pouvoir avoir, par exemple, comme la dame disait, des salariés qui sont un petit peu plus heureux parce qu'ils ont un pouvoir d'achat qui est supplémentaire. Et les Français ne sont pas plus cons que n'importe qui. Si vous leur montrez par A plus B que d'un côté, ils vont avoir plus de ressources, que ce n'est plus du salaire différé et que là, on baisse un petit peu parce que fondamentalement, ça n'a pas grande raison de dépenser de l'argent là-dedans. Et je pense qu'il n'y a aucun Français qui va aller contre ça. Donc oui, je pense qu'il est possible de se faire élire en proposant des baisses de dépenses si vous montrez que de l'autre
mais
côté,
surtout,
vous rendez du pouvoir
d'achat. Xavier, il faut toujours rappeler quand même que la France est particulièrement généreuse. J'ai appris qu'on versait des aides au logement, des APL, aux étudiants extra-communautaires qui viennent et étudient en France.
Ça,
et qui ne sont pas boursiers. Voilà, donc c'est-à-dire qu'ils sont, s'ils étaient boursiers, d'accord, ils en auraient besoin, etc. Donc ils ne sont pas boursiers, ils viennent de l'étranger, ils n'ont pas contribué au système et on leur donne des APL. Je me dis, la France est tellement généreuse, sachant que par ailleurs, on a une dette record. Je me dis, il y a un truc qui va pas.
Je vais vous donner
un exemple. C'est peut-être pas à faire pour tout le monde, mais moi, par exemple, quand j'ai eu plus jeune une période, de chômage, j'ai trop perçu. Et lorsque j'ai été à nouveau en emploi, j'ai dû rembourser ce trop perçu. Je n'en suis pas mort. Je veux dire donc des dépenses qui sont indues ou qui sont trop généreuses, il faut les supprimer. Les arrêts maladie, c'est quelque chose effectivement où on voit que très facilement dans la fonction publique, il y a des abus terribles. Je pense très honnêtement que si par exemple vous dites aux Français, on va vous rendre 50% des charges sociales en salaire, mais que de l'autre côté, quand vous êtes propriétaire, que vous êtes à la retraite et que vous avez une retraite de 2000 euros, eh bien, de 2500 euros, on va baisser un petit peu votre
d'accord,
pension.
D'accord, mais Xavier.
C'est un exemple.
Xavier, le problème, c'est que beaucoup de Français sont biberonnés à ce système. Quand on a voulu par exemple supprimer le remboursement des cures thermales, ça aussi c'est un truc. Là, il y a des abus, où des personnes vont faire leur cure chaque année, remboursées, etc., sans aucun suivi médical. Ça a été une levée de bouclier d'une partie des députés. Voilà.
Merci Xavier d'être intervenu dans les GG, dans les grandes gueules. On va regarder ce que vous en pensez. Gabriel Attal qui propose de réduire les dépenses sociales, il en fait une priorité. 100 000 fonctionnaires de moins taillés dans les dépenses. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, clairement, il faut en faire une priorité. Vous voyez, vous êtes plutôt sur la ligne Attal. Oui, clairement.
Non, on est d'accord avec le constat.
À plus de 72%. Justement, on parlera tout à l'heure de l'interdiction de la vente de tabac aux personnes nées après 2009. Ça aussi, le tabac, ça a un coût pour la sécurité sociale. Est-ce qu'il faut maintenant arriver à une génération de sans tabac? Ce sera ça à 11 ans moins 20. Mais dans un instant, on va vous raconter ce qui s'est passé. Une mère, une fille, une mère qui menace une enseignante en lui disant « je vais te faire une Samuel Paty ». Les profs sont-ils encore en danger? 32-16 pour venir en discuter avec les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules. C'est sur RMC, RMC Story. C'est avec vous. C'est au 32-16 que ça se passe. Vous prenez la parole. Comme Xavier, notre chef d'entreprise, il y a quelques minutes, qui nous a appelé de Haute-Garonne. Aujourd'hui, nous sommes avec la philosophe Bérénice Levé, Laura Barton-Martinez, la sophrologue, Abel Boyi, l'éducateur. Sommes-nous à l'abri d'une nouvelle affaire Paty? Nous allons vous raconter ce qui s'est passé dans un établissement d'Île-de-France. Pourquoi ? Parce que ça se passe dans un lycée d'hôtellerie-restauration et c'est une mère de famille qui s'en prend à une professeure.
Oui, c'est le JDD qui nous raconte cette histoire. La mère, donc en Ile-de-France, de cet élève a menacé de faire une Samuel Paty à une enseignante parce qu'elle estimait que cette enseignante était islamophobe avec sa fille. En fait, l'élève, sa fille, donc reprochait à sa professeure de l'avoir fait manipuler de l'alcool lors d'un cours d'hôtellerie-restauration qu'elle refusait en raison de sa religion. Donc la mère a appelé l'établissement et elle a déclaré « Je veux faire une Samuel Paty » avant d'ajouter « Ne vous étonnez pas s'il y a d'autres Samuel Paty ». La proviseure tout de suite a réagi, a interdit immédiatement son accès au lycée, sans rendez-vous, a demandé une protection l'enseignante et fait intervenir la brigade régionale de sécurité lors d'une rencontre avec la mère et sa fille. Lors de cet entretien, la mère a précisé que les musulmans sont stigmatisés en France et elle soutient sa fille qui n'a pas à se conformer au programme social, scolaire, estimant que sa loi à elle prévaut en référence à, bien sûr, à la loi religieuse. Alors il y a eu un signalement qui a été effectué au procureur. La mère a été convoquée par la police, mais l'affaire a finalement été classée sans suite.
Ben voilà.
Qu'est-ce que tu en dis, Abel, Laura et Bérénice? Abel?
Ben je vais vous faire une Samuel Paty. Ça s'appelle une menace de mort. Et il y a un truc qui est toujours dommageable en fait. Tu vois, moi quand je suis au GG, je suis un Français noir. Quand je parle pas au nom de tous les Noirs. Il y a des Noirs qui vont être d'accord avec moi, des Noirs qui ne vont pas être d'accord avec moi. Donc quand cette dame, elle parle au nom de tous les musulmans, comme si tous les musulmans avaient la volonté que leurs enfants, lorsqu'ils se retrouvent dans la même filière, agissent de même, alors que vous avez énormément de jeunes musulmans, de jeunes Français de confession musulmane qui sont dans ces filières et avec qui ça se passe très bien, ça porte préjudice en fait. Parce que quand elle parle au nom des musulmans, ben, y a des personnes qui vont reprendre ça pour ensuite rajouter de l'huile sur le feu. Donc il faut cette personne, faut la sanctionner. Je suis désolé, elle fait une menace de mort. Elle aurait dû se retrouver en commissariat. Elle doit rendre des comptes et c'est inadmissible. Et effectivement, on est en France. En France, il y a des règles. On va dans une filière, dans la restauration, il y a de l'alcool. On est quand même au courant. Donc, on va pas changer, comment dire, les codes de toute une filière et les codes de la gastronomie française en fonction des religions. Je suis désolé, la religion, c'est à la maison que tu sois chrétien, musulman, dans le judaïsme, bouddhiste, tout ce que tu veux. Tu ne mets pas le religion sur ton lieu de travail. Sinon, tu trouves un autre travail. Où tu bouges, je suis désolé parce que ces personnes-là.
Alors tu fais pas restauration. Hein,
mais où tu fais pas restauration, mais
c'est pas conforme à tes principes.
Mais ces personnes agacent parce que pour une personne qui va parler comme ça, en fait, bah ça va jeter une sorte d'épée de Damoclès sur tout le monde.
Ah bah oui, mais il y a une menace et même un cas peut justement entraîner.
Et comme c'est déjà arrivé, ça peut réarriver malheureusement.
Donc on n'est pas assez ferme lorsque quelqu'un menace comme ça.
On n'est pas assez ferme, mais c'est surtout. Pourquoi cette femme peut se sentir forte? C'est qu'elle est soutenue par un parti. Elle est fille qui tient exactement ce discours. Quand elle vient dire « les musulmans sont stigmatisés en France », elle est relayée, alors qu'évidemment c'est absolument faux, les musulmans ne sont pas stigmatisés en France, sauf que LFI lui répète à longueur de journée que les musulmans le sont. Donc par conséquent, si vous voulez, elle se sent toute puissante et comme légitimée dans son discours. Et alors par ailleurs, en effet, faire prévaloir la loi islamique sur les alors là en plus des mœurs et là les mœurs françaises apparemment puisque c'est sur des questions de
surtout on lui demandait pas de boire de l'alcool à cette fille
non,
de
manipuler
de servir une bouteille de vin
il y a rien qui t'en empêche hein selon la loi du Coran il y a rien qui t'en empêche
à partir du moment où elle choisit cette filière alors là aussi c'est soit de la provocation soit on veut absolument investir un domaine qui est proprement français, celui de la gastronomie proprement française, pour faire prévaloir ses propres mœurs. Donc là, il y a quelque chose de totalement pernicieux, vicieux, qui...
Et puis l'indécence, et l'énorme problème, c'est qu'effectivement...
Mais la sanction ne tombe pas sans délai. Alors là,
surtout qu'il y a eu convocation au commissariat.
Voilà,
elle n'aurait pas dû ressortir sans suite.
Mais non, exactement. Non, non, bah non. Et
une menace de mort.
Une menace.
Exactement, c'est une menace de mort. Moi, je suis désolée, je trouve. Alors, cette femme-là, moi, je la mettrais pas en prison. Effectivement, je la condamne, mais je la condamne à une déchéance de nationalité pendant X temps. C'est-à-dire que pendant X temps, elle a...
ça n'existe pas.
On peut le changer. On fait des nouvelles règles.
Qu'elle a une double nationalité.
Oui, mais il faut qu'elle ait une double nationalité.
Alors dans ces cas-là, moi, je lui enlève comme un prisonnier. Je lui enlève ses droits français
ou ses droits civiques.
Ses droits civiques. Exactement. À un moment donné, tu estimes que ta religion est plus importante que les lois de la République. Ça n'arrive pas en France. C'est niette, c'est interdit. Donc, tu estimes que ta fille, elle doit d'abord respecter les lois de son livre sacré plutôt que les lois de la République, très bien, tu n'as plus de droit civique. Point. Je suis désolée, tu n'as plus le droit de vote.
Terrible, c'est que Samuel Paty devient utilisé pour menacer de mort.
Mais oui, c'est dramatique.
Non, et puis là, c'est en train... En plus, moi, ce qui m'agace, c'est que c'est en train de nourrir là, mais moi, il faudrait qu'on se mette sur CNews. À mon avis, ça va faire le 100% frontière, ça va faire celui du... Enfin, ça va faire toutes les émissions. Là, Pascal Praud, c'est du petit pain.
De toute façon, c'est le JDD qui a...
C'est pour ça, celle-là, ça va être
oui, c'est déjà le cas.
Ça va être du petit lait.
Oui, mais c'est pas parce que...
Mais heureusement.
Je m'en fous de ces news. S'il y a une femme qui menace, une enseignante de la tuer, de la décapiter, cette femme, elle doit être poursuivi, on peut pas classer sans suite.
Il faut
faire même des exemples. Enfin, il faut être, et déjà parce qu'il faut protéger les enseignants, parce que tu imagines déjà les enseignants, ils ont été traumatisés par l'affaire Samuel Paty. Mais là, ce genre d'histoire, j'imagine à chaque fois, ils doivent se dire, mais en fait, je risque ma peau en allant simplement enseigner. Donc, je trouve que là, la justice, on parle beaucoup de la justice en ce moment, elle doit être implacable.
Mais elle ne sera pas
pour protéger les agents du service public, pour dire les choses en fait.
Alors
on dit que ça n'a pas été caractérisé suffisamment.
Ce qui est intéressant, c'est la manière dont cette femme réagit quand elle dit qu'ils sont stigmatisés. Oui. Donc j'imagine que cette femme, je ne sais pas comment, de quelle apparence elle a, mais stigmatisée, Abel le dit non. En revanche, elle pense que dans une pratique orthodoxe ou radicale de sa religion, elle se sent stigmatisée. Ce qui veut dire qu'elle est plutôt sur une frange radicale. Si tu veux, elle doit avoir...
Ça peut être aussi...
Quand elle fait cette référence, on parlait il y a quelques minutes de Gabriel Attal et de l'abaya, je pense que c'est quelque chose qui pour elle est inadmissible. Aujourd'hui, la laïcité pour elle est un concept qui n'est pas en accord avec son mode de vie. C'est pour ça qu'elle dit on est stigmatisé, mais c'est pas les musulmans. C'est une certaine manière de pratiquer sa religion.
Le problème de la France, c'est que malgré tout, ça fait combien de décennies qu'on rend légitime l'expression des identités particulières. Vous m'excusez, mais tous, vous avez utilisé le féminin pour parler du professeur qui est en question, ou du proviseur. Ça, pour moi, c'est... Je me refuse absolument. Moi, j'exige...
À dire madame la professeure.
Voilà. Ouais. Moi, je suis professeur sans E, docteur en philosophie sans E.
Parce que ce
n'est pas mon identité qui doit prévaloir dans mon métier de professeur, c'est ma fonction. Donc, à partir du moment où on a ouvert l'espace public aux identités de femmes, donc après religieuses, sexuées, sexuelles, à ce moment-là, on a de toute façon soulevé le couvercle de Pandore. On a mis les pieds dans un engrenage complètement fou. Si on fait valoir les identités, après, on ne sait plus comment les arrêter. Le génie français, c'était précisément de tenir la bride aux identités particulières au profit de l'identité française exclusivement. Et donc, ça, c'était une chose des plus précieuses.
Bon, moi, je vais revenir sur l'expression, comme tu disais, je vais vous saluer Samuel Paty. Moi, ce qui m'embête, c'est que pour elle, c'est une référence auquel elle peut s'appuyer pour menacer quelqu'un.
Ah oui.
Samuel Paty, ça a été un drame absolu. Et ce qui est terrible, c'est que cette femme ne comprend pas que Samuel Paty, ça a été un drame aussi pour les Français de confession musulmane.
Elle n'a pas pleuré sur le sort de Samuel Paty.
L'immense majorité des Français de confession musulmane ont dénoncé, ont pleuré sur Samuel Paty. Et quand tu regardes le film, justement, n'y a-t-il pas des acteurs de confession musulmane, des enfants de confession musulmane, des actrices de confession musulmane, et tout le monde rend hommage à Samuel Paty. Donc c'est toujours une minorité, en fait, dans tout.
Je pense que même pour toi, ces exemples exemple que tu cites, pour elle, ne correspondent pas à ce qu'elle pense, non, et sûrement à son mode de vie. Parce que pour dire, je vais vous faire une Samuel Paty, ce qu'elle remet en cause, elle, c'est le mode de vie à la française, c'est la laïcité. Où il y a l'alcool, non, etc.
Elle dit si tu veux, la loi de ma religion est supérieure
à vos lois. Le livre est supérieur aux lois de la République.
C'est le fameux débat.
Elle appartient à une branche radicale de la religion musulmane ultra radicale et qui de facto ne peut pas fonctionner avec la République française.
Dans de nombreux pays, c'est un projet politique. C'est une façon d'organiser la société.
En France,
ce n'est pas la religion qui organise la société.
Oui, mais l'immense majorité de musulmans ne pose pas problème. On fait toujours une focale sur ceux qui ne vont pas. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, ils sont agissants.
Alors, on a Jasmine qui nous appelle des Yvelines. Bonjour, Jasmine. Bienvenue dans la discussion. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Jasmine, des propos tenus par cette femme?
Moi, j'en dis que elle est totalement délirante. Je vous prie de m'excuser. Elle est totalement délirante, cette femme, parce que c'est elle, justement, ce genre de comportement qui fait le plus de mal à une stigmatisation de cette religion. Parce que tous les arguments qu'elle apporte pour justifier le fait de dire « je vais faire une Samuel Paty » qui était totalement hors religion, elle cache son manque d'éducation par rapport à sa fille et par rapport à elle-même, en fait, son activisme. Elle se cache derrière la religion. Et cette religion, ma religion musulmane, ne prévaut pas d'avoir ce genre de comportement. Je suis sûre qu'elle n'a jamais ouvert le livre de sa vie. Et d'où, moi, je pense que quand on remet en cause un système français, un système scolaire français, le système où on vit, d'accord, et qui est un beau pays, il y a ses défauts, mais il y a quand même pas mal de qualités, elle devrait être incarcérée. Je suis désolée.
C'est une menace de mort.
En tout cas, elle devrait être condamnée.
Elle n'a même pas été condamnée, puisque...
Justement, où on devrait réformer en profondeur le système judiciaire. De même que ABC, bon, ça c'est un autre débat, mais ABC,
dans le débat sur l'affaire Liana, on a beaucoup parlé de la magistrature et comment fonctionnait la justice en France, et beaucoup on nous a expliqué que les magistrats classaient sans suite très rapidement parce qu'il y avait trop de dossiers. C'est une façon aussi d'économiser.
Oui, mais alors à ce moment-là, c'est un autre débat, mais juste une petite anecdote. Il faudrait aussi réformer le fait de pourquoi les gens sont en prison. S'il y a quelqu'un en prison parce qu'il a conduit sans permis, et il y a quelqu'un qui a violé, qui est dehors, il y a peut-être un souci, vous voyez. Parce qu'il a fumé un peu de chichon, comme on dit, il y a peut-être un souci. Là, il y a un moment donné, il faut restaurer le patriotisme en France. Moi, je regrette sincèrement, bon, j'étais petite, mais ça m'avait beaucoup marqué. Je regrette sincèrement le temps de Chirac, où le gars, il se barrait quand on sifflait la
Marseillaise.
La Marseillaise, où voilà, c'est maintenant, on n'est plus français, on se bat entre nous, on n'est plus, à proprement parler, français. Et il y a tout un cirque médiatique qui est alimenté justement par cette bonne femme là qui mérite même pas le titre de musulmane, qui est alimentée parce que à ce moment-là, si t'es pas contente, ma fille, tu rentres au pays ou tu vas dans un pays musulman où elle ne bougerait pas une oreille par rapport au
professeur. Je peux vous dire que dans un pays musulman, elle ne pourrait pas menacer un
Syrien. Jasmine, ce qu'elle appelle, ce qu'elle souhaite de ses voeux, c'est de la sévérité dans ces cas-là. Jasmine, je vous remercie d'avoir été avec nous.
Et le respect aussi des enseignants, parce qu'il y a aussi le respect de l'autorité, c'est-à-dire qu'il y a notamment les parents d'élèves, certains parents d'élèves se permettent aussi quand même ça de remettre en cause l'enseignement.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, 4 millions de fumeurs en France, l'assurance maladie veut l'interdiction de la vente de cigarettes aux personnes nées après 2009, c'est-à-dire ceux qui auront 18 ans l'année prochaine, pour parvenir à quoi ? À une génération sans tabac. 32-16, on va en parler dans les GG, dans les grandes gueules.
Laura.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Vous prenez la parole avec les GG, avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. C'est vous qui complétez la discussion, le débat aujourd'hui avec Bérénice Levé, la philosophe, Laurent Barton-Martinez, la sophrologue, et Abel Boyi, l'éducateur. On va regarder ce que veut faire l'assurance maladie. Alors on sait qu'on fume moins en France, mais l'objectif, c'est de parvenir à avoir véritablement une génération non-fumeur.
Quand je vois les mômes de 12-13 ans qui fument déjà comme des pompiers. Je les imagine dans 25 ans à galérer pour arrêter. Je trouve héroïque et admirable ceux qui ont jamais eu besoin de cette merde, qui ont jeté cette fumée du diable, qui chlingue comme une vieille gerbe.
4 millions de fumeurs encore aujourd'hui en France. L'assurance maladie veut qu'on interdise la vente des cigarettes aux personnes nées après 2009, ce qui veut dire que l'année prochaine vous aurez des personnes de 18 ans. En fait, ce qu'on voudrait, c'est qu'elles ne fument plus, qu'on ait une génération sans tabac.
Oui, parce que malgré tout ce qui a été fait, affichage sur les paquets, hausse des prix, etc., l'assurance maladie fait le constat qu'en France, on fume encore beaucoup trop, et notamment chez les jeunes, et plus beaucoup de nos voisins. On reste mauvais par rapport à nos voisins. Voilà ce que disait lors d'une conférence de presse le directeur général de l'assurance maladie, monsieur Thomas Fatome. Et donc Thomas Fatome, il fait une proposition. Alors, il s'est inspire de ce qui va être mis en place au Royaume-Uni, à savoir essayer de mettre en place une génération sans tabac, de dire voilà, on prend une génération, donc après 2009, donc pour ceux qui sont encore mineurs, les cigarettes seront interdites. Et au Royaume-Uni, les personnes nées à partir du 1er janvier 2009, actuellement âgées 17 ans ou moins, n'auront jamais le droit d'acheter des produits à base de tabac, comme des cigarettes, même une fois adultes. Et en cas d'infraction, les fumeurs eux-mêmes ne seront pas sanctionnés, mais on pourra quand même. Donc ça veut dire que on impose quand même à une génération d'arrêter de faire ce qu'on fait depuis la nuit des temps. Alors est-ce que c'est bien ?
Alors je regardais, mais la proportion de fumeurs quotidiens chez les plus de 18 ans, on a quand même sacrément baissé. Hein.
Ah oui, non, mais ça baisse, oui, mais pas suffisamment.
On a baissé. Tu vois, on est par exemple chez les 18-25 ans, on était à plus de 20% en 2014. Aujourd'hui, on est descendu à 17%. Donc, il y a quand même des résultats, quoi. Tu vois,
parce que moi, ce que j'avais entendu, en effet,
tu ne fumes pas ou tu ne fumes plus ou tu n'as jamais fumé.
Je n'ai jamais fumé.
Pareil.
Il vapote, paraît-il, la jeunesse à ce goût. Bon, et quant à interdire, moi je dois vous avouer que je n'en peux plus de toutes ces interdictions qui tombent de partout. En plus, on sait que sur la jeunesse, plus une chose est interdite, plus elle a de saveur.
Vers des produits
donc,
alternatifs.
Et puis, il y aura mille et un moyens de contourner l'interdit, de faire acheter par...
Il y aura un trafic.
Non, moi je suis
tu
vraiment...
Tu n'y crois pas.
Non.
Et tu n'en veux pas.
Non, et je n'en veux pas, surtout, j'en ai assez que... surveiller et punir de partout. C'est odieux.
Alors, on a une fumeuse autour de la table, ou plutôt une vapoteuse.
Une vapoteuse.
Et qui est née en 2009.
Ah ouais, j'aimerais bien.
Donc, est-ce que tu y crois, cette mesure, ou pas ?
Pas du tout. Et puis, je trouve ça un peu fort de café quand on pense... à toute la propagande qui a été faite autour de la cigarette, les paquets de clopes qui ont été déversés dans les tranchées, etc.
Il y a longtemps.
Oui, mais les Français ont été biberonnés à la cigarette. Tu en vois dans tous les films, ça fait un peu cow-boy, etc. Pour être un peu le macho, il te faut une clope, un verre de whisky sans glace, etc. Donc en fait, t'as tout cet univers-là qu'on continue. Et il y a, je suis désolée, une forme d'hypocrisie de l'État. Moi, je rejoins complètement Bérénice. Moi, de toute façon, je suis contre les interdictions en général. J'étais contre l'interdiction de l'alcool dans Paris. J'avais dit, tu prends tes responsabilités si tu veux te prendre une cuite. Et ben là, c'est pareil. Moi, j'entends que les Français, en général, n'ont pas à payer pour le mec qui a décidé de fumer deux paquets de clopes par jour et de lui payer ses poumons. Je l'entends. Et bien, dans ces cas-là, s'ils veulent faire quelque chose, c'est à partir de 2009. Très bien. Ben, si par contre, tu as des maladies suite à ta consommation de cigarettes, tu auras une cotisation supplémentaire à la Sécurité sociale pour prévenir de tes problèmes.
Ah oui, toi tu voudrais que la Sécurité sociale demande est-ce que vous êtes fumeur ou pas ? Donc monsieur, vous êtes fumeur, vous prenez vos risques et tu remets une petite taxe supplémentaire sur la personne qui est fumeur.
De la même manière que moi personnellement, quand je vois, j'ai vu le cas, un monsieur qui se fait une greffe de foie parce que cirrhose due à une cirrhose alcoolique, il a un nouveau foie, le mec continue de boire de l'alcool. Moi je suis désolée, toute sa prise en charge, elle doit être assez.
C'est des maladies enfin.
C'est de l'addiction.
Bah oui.
La cigarette aussi dans ces cas-là. La cigarette aussi dans ces cas-là.
Bah oui.
Mais non, on peut pas tout le temps déresponsabiliser les
individus. Là, je te dis à partir de 2009. Donc effectivement, ce sont des enfants qui sont mineurs, qui techniquement n'ont pas encore.
Non mais Abel. C'est encore une déconnexion totale avec la population. Il y a déjà un trafic de cigarettes qui existe. Comme ça coûte tout cher, il y a un trafic qui est très important. Ouais. Les jeunes ne fument pas que des cigarettes officielles aussi. Ouais. Et d'un côté, on peut pas dire on en a marre de l'État nounou, de l'État tout puissant, et de l'autre côté, continuer de maintenir les gens sous perfusion. C'est et c'est cette dichotomie qui me gêne chez les politiques qui ont cet intérêt à nous maintenir pour pouvoir nous manipuler quelque part, pour pouvoir nous faire, qui sont présentée sous forme d'injonction pour nous faire du bien.
C'est venu de qui cette politique?
L'assurance maladie. Comme le disait Laura, ceux qui ne sont pas fumeurs, c'est le principe de tout le monde paye, y compris pour ceux qui sont dans les...
La belle n'a pas tout à fait tort, c'est-à-dire qu'on va sans doute aller vers la dépénalisation du cannabis. Vous allez voir, on va y arriver. Ça va être dans les débats, à mon avis, pour la présidentielle, il y aura des candidats qui vont le proposer, puis comme on n'y arrive pas à lutter contre le trafic, il va falloir trouver d'autres solutions. Donc on va dépénaliser le cannabis et interdire le tabac. Donc on envoie aux jeunes quand même des messages très contradictoires.
Et encourager la vente sur Internet et les achats transfrontaliers.
Bien sûr.
Parce que pour ceux qui habitent à côté de l'Italie, qui habitent à côté de l'Espagne...
Tout le monde n'habite pas à côté d'Andorre.
Non, bien sûr, mais ça représente quand même à chaque fois quelques centaines de milliers.
C'est très facile de sourire. Hein. Je peux te dire que les filières sont très très bien organisées et que beaucoup de jeunes sont même au courant de celles-ci et en profitent dès l'âge même de 13-14 ans. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un retard à l'allumage et une déconnexion. Donc, combien même ils prendraient cette mesure, ça ne serait pas du tout efficace. Et c'est quel message que tu envoies? Parce que tu dis, c'est pour l'assurance maladie, je ne veux plus que les jeunes fument parce que ça nous coûte trop cher. Ou je ne veux plus que les jeunes fument parce que c'est un problème de santé publique.
Il y a une confusion, même dans le message
de prévention que tu veux apporter aux jeunes.
Le message de prévention, aujourd'hui, il est sur les paquets quand même. Tu le sais, partout, plus personne ne peut dire « je ne sais pas ce que ça provoque de ne pas fumer ».
Qui pense que c'est mauvais, que c'est bon pour la santé? Alors, Abel, excuse-moi, aujourd'hui, plus personne ne peut dire « ah, je ne savais pas que la cigarette... »
Non, mais j'ai pas dit ça, vous ne m'avez pas compris. Moi, je parle du message qui est envoyé. Quand tu dis qu'on réfléchit à l'interdiction de la vente de tabac, le message que tu dois donner aux jeunes, c'est que tu veux prendre soin d'eux. Mais quand tu mets la question financière dessus, ben en gros, c'est vas-y, je te coûte trop cher, ben va te faire voir. C'est ça.
On va aller à Lyon écouter Patrick qui est boulanger. Bonjour Patrick, bienvenue dans les GG. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que vous pensez que ça peut être réalisable alors?
Moi, j'ai fait une comparaison récemment avec l'étranger, justement. J'étais en Italie pendant 15 jours, 3 semaines. Le paquet de cigarettes est à 5 euros là-bas.
Oui.
Personne ne fume dans la rue. Parmi les jeunes, j'ai fait les 5 terres, Pise, Florence, la Toscane, les grandes villes par là-bas, dans les rues, surtout à Florence. J'étais impressionné de voir que personne ne fume dans la rue.
Malgré un tarif beaucoup plus intéressant que chez nous, les gens ne fument pas. Donc, ça n'a rien à voir avec le prix.
Exactement. Ça ne sert à rien de mettre le paquet à 15 ou 20. Dans Lyon, on voit beaucoup de gens fumer.
Parce que c'est tout. En fait, on est en train de changer. On est en train de changer de génération.
Le paquet est à 6 euros. Hein. J'ai fait toute l'Andalousie l'année dernière.
C'est plus à la mode, la clope.
Non, c'est vrai qu'on voit moins de gens fumer.
C'est plus à la mode de fumer. On a changé d'époque. Moi je pense.
Vous êtes fumeur, Patrick, ou pas?
Non, j'ai arrêté.
Il y a combien de temps?
Il y a 6 mois.
Et vous avez réussi? vous avez réussi comment alors?
Les patchs.
Oui.
Bah bravo.
Ouais, et puis.
La volonté.
Un peu de volonté aussi, ouais.
Et l'âge aussi, peut-être vous dites.
Et vous avez compensé à côté ou pas?
Il fait 150 kilos.
Non, j'avais. J'avais pris 3-4 kilos, j'ai reperdu parce que.
Ça va, 3-4.
Ça va. Dans tous les cas, félicitations, Patrick, parce que l'important, c'est d'arrêter.
Il a le summer body.
Et c'est de préserver votre santé. Merci, Patrick, d'avoir été avec nous. Interdire la vente de tabac aux personnes nées après 2009. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, oui ou non? On va regarder ce que vous en pensez. C'est non, mauvaise idée à 59,3%. Ouais. Dans un instant, on va vous faire connaître Manolo Mlekuz. Manolo Mlekuz,
peut-être le futur président.
Il a 20 ans. Il sillonne la France en van. Il veut être candidat à l'élection présidentielle et il va faire connaissance avec les GG. Il va pas être déçu.
Qui rend la planète toxico, il t'explique que c'est pas bien, faut pas fumer dans les bistrots.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.